Deeper than rap.
Deeper than rap.
Deeper than rap. You see, in this world, there's two kinds of people who listen to rap, my friend. Those with loaded iPods and those who dig. We dig.
Bonjour, bonsoir.
Hello.
What's up?
Ça va, les gars?
Bah non, quand même pas. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écouterez. L'union fait la force, donc on a décidé de se réunir tous les quatre pour vous proposer une nouvelle émission, Deeper Than Rap.
Exactement, ouais. C'est ça, donc je me présente apparemment, Mehdi de l'ABCDR du son, extrêmement fier et heureux de faire partie de cette équipe.
J'aime cette introduction.
Moi c'est Nico, donc Pure Baking Soda, fusil à pompe. Je suis un peu là pour apporter un peu de bon goût à cette émission parce que mes camarades sont pas au point là, à ce niveau-là.
Je te rappelle que tu es le Benjamin de la team. Donc
et justement, il faut que je m'impose autrement, tu vois.
Yes, le Capitaine Nemo. Pareil, ABCDR du son, comme Eddy, et puis aussi le Trill Show et différentes choses d'Orléans en grande partie, et pas mal de choses aussi sur le rap, etc. Bref.
Donc toi, tu es le provincial du crew.
Exactement.
Et pour finir, moi-même, Kike, 187prod.com, Gangstarap, G-Funk, si vous écoutez ce genre de sonorité, vous connaissez mon site. Donc voilà, nouveau concept d'émission. Écoutez, je vais, plutôt que me paraphraser, vous lire vite fait le petit topo de présentation. Donc c'est un talk show mensuel d'une heure consacrée au rap américain. On est tous les quatre journalistes, blogueurs spécialisés, c'est un peu ronflant mais c'est le cas. Et donc on a décidé de se réunir pour échanger nos goûts, nos points de vue respectifs afin de mieux explorer la diversité et décrypter la complexité du rap américain. Et donc on fera ça sous forme de débats liés à l'actualité, de focus sur des artistes, des albums, des labels, des scènes locales, etc. qu'on apprécie. On n'a pas pour volonté d'être exhaustif, simplement de parler du rap américain qu'on aime et celui qui, en bien ou en mal, nous interpelle. Voilà. Et donc la tagline de l'émission, c'est: les gens qui écoutent du rap se divisent en deux catégories, ceux qui ont un iPod chargé et ceux qui creusent.
Nous creuse.
Voilà. Et donc au sommaire de cette première émission.
Alors, c'est bien cette première émission, on est l'été, il y a beaucoup de blockbusters en ce moment au cinéma, donc on s'est dit qu'on allait un peu rebondir là-dessus. Il y a deux très gros disques qui sont sortis assez récemment. Il y a le Yeezus de Kanye West et le Magna Carta Holy Grail de Jay-Z. Donc on va en parler, on les a tous plus ou moins écoutés.
Oui, plus ou moins.
En tout cas, on a tous des opinions très arrêtées dessus. Donc voilà, on va en parler dans la première partie de l'émission, ce sera une forme de débat autour de ces disques-là. Et comme vient de le dire Kike, il y aura aussi l'émission des portraits, des coups de cœur sur des labels parfois un peu moins exposés. C'est ce qui se passera dans la deuxième partie de l'émission. Alors Kike, je te renvoie la balle, t'en parleras peut-être, enfin sûrement mieux que moi.
Tout à fait. Donc une présentation de Livewire Records, qui est un label d'Oakland, assez représentatif de la scène gangsta rap locale et accessoirement des mecs que j'ai captés quand j'étais là-bas. Donc j'ai forcément quelques anecdotes assez rigolote à vous raconter, en espérant qu'elles vous intéresseront.
Du croustillant.
Yeah. Entre autres.
Du gossip.
Oui, voilà. Enfin, on va essayer non plus de pas partir trop en live, mais on sera en wire.
Yeah.
Le premier bon point
exactement,
distribué.
Le premier bon mot est pour Kiki.
Bon, deepervenrap.fr, j'insiste là-dessus, hein, parce que le .com était déjà pris par l'ancien maton obèse de Floride. Forcément, deepervenrap.fr, vous aurez toutes les infos et évidemment les podcasts en téléchargement et en stream dessus. Et puis on enregistre dans les conditions du direct, mais nous ne sommes pas en direct, donc je ne sais pas combien de temps ce sera écoulé entre le moment où on enregistre et le moment où vous nous écouterez. Mais bon, vous l'aurez compris, on essaye à la fois de coller à l'actu et de s'en détacher, un bon mix entre les deux. On débute avec un extrait de
Jay-Z.
Yes.
Comme ça, on rentre dans le bain direct.
Direct, cash.
C'est parti.
I work and work till I'm half dead and I hear people saying she's getting old. And what do I get?
I got a little reverb.
A daughter! Who cares as much about the beautiful dresses I give her as she cares about me? Oh.
Let's do this for these babies. Mercedes, truck, fuck, houses on acres. Flaky ballin' on
need to step up your AV. Life changed again, I was already taking off. My flight changed again, slight change wins. It's barely 12 noon and my wife changed again. Baby need pampers. Daddy need at least 3 weeks in the Hamptons. Please don't judge me. Only hugged the block, I thought my daddy didn't love me. My baby getting chubby. Cue that Stevie Wonder music, oh, isn't she lovely? Now I'm staring at her, praying that things don't get ugly. And I'm stuck in that old cycle, life, wife leaves hubby. Fuck joint custody. I need a joint right now, just the thought alone fucks with me. High on life. I could die from the fall, imagine if I hit the floor. Apologies in order, the blue ivy, my daughter. If it was up to me, you would be with me. Sort of like Daddy Dearest.
My first time at the rodeo.
I dream filthy.
My mom and pops
mix me with Jamaican
rum and whiskey.
What a set off. And I know I'm not perfect, baby. I've been through so much trauma. Gonna be hard to reverse it with some doctors and some nurses, maybe. Teach me how to treat a lady. Open doors on the Sadies. This relationship shit is complicated. All I know is we ain't speaking every day. I fucking hate it and I don't wanna duplicate it. I done seen my mom and pop drop each other motherfuckin' crazy. And I got the nigga blood in me. I got his ego in his temper. All that's missing is the drugs and they high on life. I could die from the fall. Imagine if I hit the floor. Apologies in order. Blue Ivy, my daughter. If it was up to me, you would be with me. Sorta like Daddy Dearest. Taught me how to be a father, treat a mother. I don't wanna have to just repeat another. Leave another baby with no daddy, want no mama drama. I just wanna take her back to a time when everything was calmer. Out in Paris on the terrace, watching the Eiffel Tower and the Ferris wheel. Yet and still nothing could compare us. For the beauty that you be, Blue B. Looking in your eyes is like a mirror. Have to face my fears, cheer up. Why can't you just be happy without these back and forth thoughts? You too much like your daddy. Badly, I just wanted to spend more time with him. Sadly, life wouldn't let me get around with him. Now I got my own daughter, taught her how to take her first steps. Cut the cord, watch her take her first breath. And I'm trying and I'm lying if I said I wasn't scared. But in life or death, if I ain't here, apologies in order. Blue Ivy, my daughter. If it was up to me, you would be with me. Sort of like Daddy Dearest.
Ok, donc là on vient de s'écouter Jay-Z Blue, donc un morceau assez symbolique finalement, puisque c'est un morceau où Jay-Z assume un petit peu sa paternité, puisque vous le savez, hein, il est désormais papa. Morceau symbolique aussi puisqu'on entend des bribes de Biggie sur le morceau. C'est un morceau aussi important parce qu'il est symptomatique de l'album, il est produit par Timbaland qui a produit la grosse majorité de l'album. Gros retour quand même de Timbaland en 2013, on pensait un peu tous morts. Il a produit sur Justin, il a produit donc sur le Jay-Z, donc c'est retour en force pour Timbaland.
On pourrait en débattre ça déjà, de retour en force de Timbaland.
On pourrait en débattre, ouais, complètement.
Je suis pas forcément d'accord.
Bah, en tout cas, il est de retour.
Il est de retour, ouais, il est de retour. Il est partout, ouais.
Et il est partout. Et ce qui était un peu inattendu. Et ce qui est marrant, c'est que sur l'album de Jay-Z, il fait pas vraiment du Timbaland en fait. Tu vois, enfin, il fait pas forcément ce qu'on attendait de lui quand Jay-Z allait chercher un beat de Timbaland à l'époque. Enfin, c'est un peu différent, mais c'est
il se fait quand même souffler la vedette par Pharrell, hein, en 2013. Hein.
Je suis d'accord.
Ouais, complètement.
C'est vrai.
Mais là, on dirait un peu Timbaland, il est en mode genre en rehab de fou. Et
ouais,
genre, ses copains, ils l'aident, tu vois.
C'est un peu ça, ouais.
Genre, bon, allez, viens, on va faire de la musique et tout. C'est quand il fait des interviews et tout, on dirait qu'il est pas, tu sais, il est pas encore tout à fait là, en fait.
Ouais.
Même ses prods, c'est un peu amorphe.
Bah, c'est pas le style Timbaland, on dirait qu'il fait une surcouche. des prods qu'il va chercher à droite à gauche, et puis il fait une encapsulation.
Ouais.
Et puis ses copains ils disent ouais, c'est cool, vas-y.
Mais c'était quoi son problème, Timbaland, de la traversée du désert là? Il s'est perdu avec Nelly Furtado?
La drogue, mec.
Non, mais surtout, il a sorti un deuxième album solo qui était catastrophique.
Il y a un Shock Value 2 qui a été, vraiment très, très, très mauvais.
C'est cauchemardesque.
Ah, là où le premier était.
Bah, c'était pas terrible. Mais
non, il y avait des prods de fou, mais il y avait vraiment des trucs
débiles. Bah, c'est la synthétisation. Oula, ça dit pas ça.
La synthèse. La synthèse, arrête-toi, la synthèse.
C'était la synthèse de son style.
Ouais,
de l'époque.
C'était l'apogée, ouais, c'était avec le Justin de l'époque, Nelly Furtado, enfin toutes des grosses prods, des gros bangers.
Il y avait des gros singles. Ouais.
Ouais. Voilà.
C'était pas The génial, Wire, mais c'était quand même, savoir que le 2.
Mais c'était déjà le début de la fin. La fin, le début de la fin, quoi.
Je pense que Timbaland, en fait, au fond, il a pas très bon goût. Tu vois, c'est ça le truc.
Comment ça?
Bah, genre, je sais pas, il part dans des trucs, tu vois, Pitbull, machin, discothèque et tout. Je suis pas sûr que ça soit un mec, au fond, qui a. Qu'à des, tu vois, un univers.
Moi, je sais pas, je pense qu'en fait, à cette époque-là, on est déjà dans la digression, mais je pense qu'à cette époque-là.
Produit l'album de Jay-Z, on peut.
Oui, produit l'album de Jay-Z, mais à cette époque-là, en fait, il avait dit dans plusieurs interviews qu'il en avait marre de produire pour les rappeurs, qu'il voulait aller voir autre chose, et peut-être que ça passait par, ce genre de collaboration. Je pense pas qu'il avait pas de goût, parce que, enfin, quand même, au début de sa carrière, même jusqu'à 2002-2003, c'est assez fort.
Non, je suis d'accord.
Et avec une identité vachement marquée. Je pense qu'après, il en avait marre du rap, et là, il revient dedans, parce qu'au final, il a pas réussi à faire autre chose que ça.
Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense par rapport à Pharrell, par exemple, dans l'esprit, tu vois, lui aussi s'est décalé du rap et tout, et il s'est resté dans une limite de bon goût, tu vois. En plus, c'est un délire autour du style avec Pharrell, autour de la mode et tout, que Timbaland il a pas du tout, tu vois.
Il a essayé d'avoir, mais.
Ça va pas, quoi.
Ah ouais, c'est clair.
Puis juste pour finir là-dessus, il a quand même eu un gros problème de drogue. Tu vois ce qu'il disait, il a eu une traversée du désert où il était plus là, quoi, le gars.
Donc en gros. Tout ça pour dire que Jay-Z a tendu la main à son pote.
Ouais, là c'est un peu Timbaland Lendemain Quit, tu vois.
Ouais, un peu. Ouais. Bah ouais.
Mais du coup, pour revenir sur l'album, puisqu'on en parle, on va commencer par parler vraiment du disque. Ouais. En soi, je sais plus ou moins ce que certains en pensaient, mais.
Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Tu vas voir. mais bon, pour résumer en tout cas, moi, ma pensée sur le disque, c'est que je pense que c'est dans l'absolu un disque. Un bon disque, c'est-à-dire que c'est pas un disque extraordinaire, c'est pas un mauvais disque. On est un peu obligé d'en parler parce que c'est Jay-Z. Par contre, ce qui est, je vais directement passer par là, mais je pense que ce qui est un peu dramatique, c'est que on parle quand même de Jay-Z qui était peut-être un des 2-3 rappeurs les plus doués au moment vraiment de son apogée, où le mec pouvait rapper sur n'importe quel instru, et que là il a l'air fatigué sur tout le disque en fait.
C'est même pas fatigué, c'est désintéressé, non?
Ouais,
je sais pas s'il est désintéressé. Je pense qu'il veut pas faire plus que ça parce que même tu vois sur tous ces featuring.
Non mais fatigué, ça voudrait dire que le mec il a envie mais qu'il n'y arrive plus. Là c'est plus il est daron, il fait des bises à n'en plus finir à droite à gauche. Et c'est ce que tu disais en antenne, Nico. C'est pas Deeper Than Rap, là c'est Bigger Than Rap. Et il s'en fout, tu vois, il vient en studio, il pose son truc, il fait ses 3-4 vidéos.
Il a plus rien à prouver, quoi.
Bidon sur son site, histoire de justifier des concepts qui n'en sont pas, et puis il passe à autre chose, il s'en fout, quoi.
Moi, je pense qu'il reste dans la facilité, ouais,
Ouais.
S'en fout.
Et je pense qu'il y a quelque chose qui joue aussi, c'est qu'à l'époque de son apogée, il faisait un album par an.
Ouais.
Il était tout le temps en studio, tout le temps sur scène, donc il rappait tout le temps. Tu vois, c'est pas pour faire une comparaison bête avec le sport, mais quand t'arrêtes de pratiquer et que tu fais un disque tous les 2-3 ans, comme ça, sur un
tu veux dire que le Jay-Z de 2013, c'est le Michael Jordan des Wizards?
Bah, ça, on sera pas les premiers à faire la comparaison, c'est ça, tu vois. C'est même pire que ça parce que. Jordan des Wizards, il amène son équipe en playoff, tu vois. Là, Jay-Z, pour moi, il est 9e, tu vois. Donc, 9e de conférence Est.
Bah, ça dépend, ça dépend en fait comment.
Par quel
conférence. C'est bien. Je pense que l'émission Deeper Than Rap va faire beaucoup, beaucoup de comparaisons sportives, NBA, basket, voilà. Le foot, on évitera.
Je pense que ça dépend en fait par quel prisme on regarde l'album, parce qu'en effet. Il amène pas d'un point de vue purement qualitatif. Clairement, le disque, c'est un disque lambda. C'est-à-dire, c'est un bon disque de rap comme il y en a plein en fait. Mais si c'était pas Jay-Z, c'est évident que voilà, on n'en parlerait pas. C'est évident qu'on en parlerait pas. Et une écoute passée, voilà, le disque.
Non, mais est-ce que c'est un bon, on va dire average disque de rap parce que c'est Jay-Z et que du coup ça plaît aux gens qui écoutent pas forcément du rap?
Non, je pense pas. Moi, je pense qu'il y a de bonnes idées dans ce disque. Je pense qu'il y a quelques bonnes idées dans ce disque.
Moi, j'ai l'impression que c'est un disque qui peut parler aux auditeurs non avertis et ceux qui connaissent ou apprécient peu le rap. Moi, ça me parle pas trop, quoi. Après, j'ai jamais été un grand fan de Jay-Z. Comme ça, je j'explique d'entrée où je me situe. Mais j'ai un peu arrêté Jay-Z après Hard Knock Life, en fait, donc ça remonte. Mais là, voilà, il y a deux, trois morceaux qui sont sympatoches. Qu'est-ce que ça dit ?
J'étais même pas né, moi.
Faut savoir que Kiki a 46 ans. Faut savoir quand même.
Ouais, c'est mon côté Dikembe Mutombo.
Et Nico a 12 ans.
Qu'est-ce que je disais que. Il y a deux trois morceaux sur l'album que donc j'ai écouté quand même pour préparer l'émission, mais je l'ai écouté de façon très distraite. C'est les trucs un peu R&B pop, voilà, c'est Justin Timberlake featuring Jay-Z sur le premier morceau, c'est Beyoncé featuring j'ai été élevé au biberon avec du New Jack et du R&B milieu des années 90, donc à une époque où Nico n'était pas né, effectivement. Donc voilà. J'ai des circonstances atténuantes dans le fait d'apprécier plutôt ces morceaux-là, qui a priori sont les plus pop, les plus commerciaux.
Et c'est ce que je voulais dire en fait dans la deuxième partie de ma phrase, c'est qu'en effet, l'album est plus ou moins lambda après chacun, voilà, mais on est tous plus ou moins d'accord pour dire ça.
Ouais.
Par contre, en revanche, tu viens de dire qu'en effet, il y a clairement des envies de pop, et ça, c'est une volonté qui a été affichée par Kanye et Jay-Z, on en reparlera, mais avec leur délire de stadium status, c'est-à-dire faire de la musique de stade. Et en effet, depuis Blueprint 3, je pense que Jay-Z, il y est arrivé. Il a fait son premier tube sur Blueprint 3, d'ailleurs, son premier morceau numéro 1 avec le morceau Alicia Keys. Et là, de ce point de vue.
Attends, je demande à Nemo de nous chanter le refrain.
I'm from New York.
On essaiera de couper ça. mais je sais pas si on pourra. Mais et voilà, de ce point de vue-là, en fait, le dernier album de Jay-Z, Magna Carta Holy Grail, il y réussit parce que c'est un gros coup de pub, c'est un gros coup marketing. Et je pense qu'aujourd'hui, Jay-Z, ce qui l'intéresse, c'est ça. Et de ce point de vue-là, si son objectif initial, c'est celui-ci, et là, je suis d'accord, on est loin de la musique. Hein, et à la base, ce qui doit importer, c'est est-ce que l'album est bon ou pas. Mais de ce point de vue-là, je pense que le rappeur Jay-Z aujourd'hui, ce qu'il a envie de faire, c'est en effet de franchir une nouvelle barrière, c'est ce que tu disais au début, bigger than rap. Et je pense que de ce point de vue-là, il a réussi. Il n'y a qu'à voir l'engouement autour de ça. Il n'y a qu'à voir que le mec, il rappe pendant 6 heures d'affilée dans un musée Picasso Baby, qui doit être le moins bon morceau de l'album, franchement. Et voilà, et de ce point de vue-là, il a réussi son coup.
Ouais, c'est sûr. Ah, c'est devenu une marque à part entière. Et finalement, la musique est accessoire, en fait. Elle va être écoutée par le plus grand nombre, mais même lui, on sent qu'il s'en fout. Enfin, il va pas la défendre pendant longtemps. Quoi.
Mais du coup, tu vois, moi, tu me présentes un album qui est moyen et qui a des ambitions de briser des barrières, de je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Ça me donne envie de le détester encore plus, en fait.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Alors dans ce cas-là,
il y a des morceaux que j'aime bien quand même.
Je t'invite, Nico, à aller lire la chronique de l'album sur le site des Inrock.
Ah ouais.
Un album, millimétré et bluffant. Voilà.
Ah.
Ça va te donner encore plus envie de l'écouter.
Non, mais moi je l'ai écouté plusieurs fois et puis je le trouve pas mauvais. Il y a des moments où j'ai trouvé ça bien quoi. Mais c'est du micro-ondes.
Il faut lui reconnaître ça, il est pas inaudible contrairement à Jesus.
Non, mais en fait, tu vois, il faut.
On va en reparler.
On en reparlera juste après.
Okay. On va creuser.
C'est ni bon ni mauvais. En fait, c'est ça.
Et c'est, là, et forcément, c'est ça qui est dramatique chez Jay-Z en fait. C'est que Jay-Z lâche un album un peu insipide.
Mais ça fait 10 ans qu'il fait ça.
Je suis moyennement. Enfin, pour moi, en fait, sur Blueprint 3, il y avait des choses qui étaient inaudibles, clairement. Ouais. Tu vois, donc au moins, c'était pas insipide. Genre c'était le morceau 8 avec Kanye West, c'était atroce.
Ouais.
Et à côté de ça, t'avais des trucs qui étaient quand même. T'avais quelques bons morceaux. Il y avait le morceau produit par Timbo.
Venus.
Exactement, celui-là que je trouvais cool.
Ouais,
il y avait quelques trucs qui étaient quand même pas mal, tu vois. Sur Kingdom Come, moi je défends Kingdom Come. Je trouve que c'est un album qui y avait des prods de Just Bates qui étaient chaudes.
Ouais.
American Gangster, c'était quand même pas un mauvais disque.
Ouais, mais tu vois,
c'est... ils se remettaient à rapper.
On en revient à dire ce morceau est bien, c'était pas un mauvais disque. Ouais, c'est pas des mauvais disques. Mais bah du coup, pourquoi est-ce que ce mec, on continue de le monter au nu, de dire que c'est le roi du rap ou je sais pas quoi, alors que réellement, ça fait 10 ans qu'il fait des disques moyens. C'est pas mauvais.
Inversement, j'ai l'impression que c'est tous les disques maintenant en rap. Tu dis plus l'album il est bien, tu dis c'est chiant, il y a la moitié des morceaux.
C'est pas faux.
C'est rare, par rapport à avant où t'avais un album complet qui était un peu fait pour être écouté en entier.
Ouais.
Maintenant, vu que les gens ils consomment plus les albums en entier, finalement il suffit que le mec il fasse 3 tubes. Regarde, mine de rien, Watch the Throne, Niggas in Paris, ça suffisait largement. Toi.
Ouais, non, c'est clair.
Et au final, justement, ceux qui ont vraiment
mais t'as encore...
des couilles, c'est de faire ça.
Moi, je peux t'en sortir, il y a des noms de disques qui sont bien de bout en bout encore aujourd'hui.
Ouais,
quoi.
Ouais. Tu vois. Mais c'est rare, c'est très rare.
Ouais, c'est rare. Et mais c'est du pas coup, si... mais ces disques-là, on en parle moins ouais. que Jay-Z, tu vois. T'es l'album de Kendrick Lamar. Je
ouais.
pense que
ouais, c'est vrai.
Faut vraiment être de mauvaise foi pour dire que c'est raté.
Ouais.
Je pense que de A à Z, il est super.
Ouais.
Et
ah, mais des albums construits comme des albums pour être écoutés, comme tu disais, Nemo, en intégralité, et puis dans l'ordre chronologique des morceaux. Voilà, c'est un autre débat. Hein. On ouvre la porte vers autre chose là, mais un mode de consommation de la musique qui est différent
ouais,
à l'ère
sûr,
du 2.0, voire du presque
après,
3.0.
Quoi, du donc, coup, même si on réfléchit comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment un titre qui se dégage dans cet album de Jay-Z qui peut faire un tube ou quoi que ce soit, tu vois.
Genre, bah moi je pense.
Je pense que BBC peut faire un tube.
Ouais, mais
Tom
mais
Ford aussi.
C'est un vieux tube.
Ouais mais tu vois BBC.
Blurline c'est un vieux tube
voilà,
aussi.
C'est...
Ouais, Blurline c'est une prod de Neptunes de 2003-2004 et ouais, ça a cartonné.
Ah oui BBC encore. Ouais c'est effectivement celui qui sonne comme Blurline.
Exactement.
Okay.
Ouais. Donc, BBC non, pourrait plus. Marcher si c'était.
Mais ouais mais on est là pour dire, tu sais on est pas là pour faire du marketing et dire ce qui va marcher. Ils se disent ce que c'est bien ce que c'est pas bien. Moi un truc que j'ai l'impression d'avoir déjà entendu 150 fois, je trouve ça pas bien tu vois.
Moi, le gros truc quand même, c'est le morceau produit par Mike Will qui dure une minute.
Ouais.
Je pense que si là il l'avait fait en entier, enfin ça on l'a ils vont le faire.
Ouais,
ça aurait pu
faire.
Être le tube de l'album parce que Jay-Z il arrive bien quand même à pomper un délire qui marche et en faire un morceau cool. Pareil pour le morceau Rick Ross, on dirait que c'est Ueno quoi. C'est ouais. quasiment la même chose. Il a le même type de gimmick. On dirait que c'est un morceau de Rick Ross où il y a un couplet de Jay-Z au milieu.
Même les dernières lignes, il y a Rick Ross qui fait 4 ou 8 mesures
ouais.
à la fin alors que voilà, Jay-Z fait.
Bah non, mais ça,
Rick Ross il fait tout le premier couplet, tout ouais. le refrain. Jay-Z il arrive au bout de 2 minutes et c'est même pas lui qui termine le morceau.
Ouais.
C'est ce qu'on disait hors antenne. Est-ce que Jay-Z aujourd'hui n'est plus qu'un rappeur de featuring même sur ses propres projets?
Mais c'est ouais, enfin déjà si on nous avait dit que la première voix qu'on entendrait sur un album de Jay-Z il y a 10 ans c'est Justin Timberlake on
ouais.
n'y aurait pas cru
ouais.
et sur le premier morceau c'est Justin Timberlake qu'on entend et on dirait vraiment un morceau de Justin Timberlake avec
c'est un ouais. leftover de son album sorti il y a quelques mois
franchement ouais. c'est possible ouais.
J'ai l'impression moi c'est que des leftovers que Timbaland il a récupéré et qu'il a fait une surcouche dessus parce que Rick Ross on dirait que c'est un leftover de Rick Ross le I fuck machin
fuck with me you know girl.
Yes Franck Océan là, le morceau Oceans
ouais,
on dirait
Watch the Throne
Franck Océan on dirait Watch the Throne de toute façon Kanye il a annoncé qu'il était un peu vénère que Jay-Z ait gardé des morceaux pour son album alors que pour lui c'était des leftovers de Watch the Throne qu'il voyait soit sur le premier soit sur le deuxième donc c'est tu vois, moi tous les morceaux que je préfère en fait c'est des morceaux qui auraient pu être sur un autre album que celui de Jay-Z même BBC ça pourrait être sur un album Neptunes ou sur l'album de Robin Thicke s'il avait fait le refrain tu vois. Enfin, tous les meilleurs morceaux finalement, ceux que je préfère, c'est ceux qui pourraient être sur un autre album, ou ça serait un featuring de Jay-Z sur l'album de Rick Ross, sur l'album de Justin, sur l'album de Frank Ocean, sur l'album de même de Beyoncé. Enfin, le morceau avec Beyoncé, c'est un morceau de Beyoncé avec Jay-Z qui rappe, quoi. Enfin.
Deux mots sur celui qui est produit par la petite canadienne. Là.
Bah, en fait, elle produit pas vraiment. On discutait.
Non,
avant,
parce que moi, j'ai lu ça vite fait, donc je vous demande de m'expliquer.
Ouais. En fait, en prenant comme source Wikipédia. Donc
c'est une source tout à fait fiable.
Voilà. Non, mais en fait, a priori, elle a juste fait une petite addition de production après quoi. Donc
ouais.
elle a peut-être mixé le morceau et puis elle a rajouté 2-3 conneries. Mais le morceau, il est majoritairement produit par Travis Scott et Mike Dean.
Non, mais elle sort d'où la meuf? C'est quoi ce délire? C'est une gamine de 16 piges, c'est ça?
Ouais.
Elle vient de Scandinavie, non? Quelque chose
ouais,
comme ça.
C'est ça. Ouais. C'est une Renoir de Scandinavie. C'est juste bizarre.
Mais non, mais moi j'ai lu que c'était une Canadienne.
Il y a une vidéo qui tourne où elle dit un peu le travail, comment elle s'est connectée. Mais je crois que ça s'est fait soit par Travis Scott, soit par Mike Dean. J'ai pas très bien compris.
Non, mais c'est quoi? Elle a envoyé un tweet à Jay-Z et il a répondu ouais, pas de
ça,
problème.
Après,
je sais pas.
C'est comme Travis Scott, on sait pas où est-ce qu'il a trouvé. Hein.
Ouais. Travis Scott, c'est devenu genre l'homme à tout faire de Kanye West.
Ouais, ça.
Il lui fait ses refrains, il lui fait quasi. Je pense qu'il doit à moitié écrire des trucs.
En fait, il est devenu ce que Kanye était pour No ID.
Ouais, c'est ça.
Bah, oui, Travis Scott l'est pour Kanye West, je pense.
Ouais.
Sachant qu'il avait vanné Jay-Z sur Twitter, je crois, il y a 2 ans.
Ouais, exactement.
Voilà.
Ouais.
Parce qu'il y a eu tous les anciens tweets de rappeurs qui sont sortis. Il y avait Travis Scott qui avait sorti un truc sur Jay-Z il y a 2-3 ans.
Alors que maintenant, il est dans son petit giron.
Exactement.
Et donc, pour la dimension Bigger Than Rap de Jay-Z et dans une moindre mesure, mais également de Kanye West, ouais, il y a un côté. À la fois avec leur business en marge du rap proprement dit et puis avec leur nana respective, un côté couple princier quoi. Alors,
Ouais, après,
couple royal, Jay-Z et Kanye West. Jay-Z et Beyoncé, pardon. Oh le lapsus. Et Kanye West qui a voulu faire. Kanye West, j'ai l'impression qu'il tu sens le mec un peu jaloux, tu vois, qui essaie de toujours imiter.
Je sais pas trop.
Donc il laisse récupérer la soupe Beyoncé.
Mais à sa sauce.
Je pense que c'est pas le même modèle.
Sur l'album précédent, il avait un morceau dont j'ai oublié le titre où il disait I fell in love with a porn star. Et ça y est.
Ouais.
C'est le cas. C'est plus ou moins une porn star. Mais il l'a marié. Voilà. Mais bon, c'est...
T'as l'impression que Jay-Z, c'est vraiment un délire un peu princier. Genre, y a rien qui dépasse. Beyoncé, tout est carré. T'as rien qui. Enfin, tout est calculé. Alors,
Kanye West et Kim Kardashian, c'est la version trash. Vulgaire.
C'est un délire télé-réalité hardcore. Enfin, tu vois, c'est un mélange de.
De mauvais goût, quoi. Alors que les autres, effectivement.
Pas forcément du mauvais goût, mais ça va.
C'est un truc punk. Dans quelle mesure c'est pas aussi calculé que le reste, tu vois.
Si, quand tu vois Kim Kardashian et que tu vois les t-shirts blancs à 80€ de Kanye West, c'est du mauvais.
Parce que pour terminer un peu sur cette parenthèse people,
people.
On me racontait que il y a un épisode de la série Kardashian où on voit Kanye West apparaître à un moment et genre on le reconnaît pas quoi. On dirait un petit gamin tout penaud, tout timide et tu reconnais pas le mec complètement fou qui tape des paparazzi et etc. Tu vois.
Bah, de toute façon, il y a un gros côté marketing derrière tout ça, c'est sûr quoi. Mais pour le coup, quand on parlait de Crown là, justement, ça peut être un bon parallèle sur Yeezus, dont on va discuter juste après. C'est peut-être le morceau plus culotté de Jay-Z sur son album, finalement, qui ressemble plus à ce que Kanye West a essayé de faire.
C'est culotté, ça dépend comment tu vois la chose. Parce que ça ressemble à une prod de Kanye West. Ça aurait pu être un morceau de Yeezus ou d'autres choses.
C'est vrai. Mais pour le coup, c'est peut-être celui qui se rapproche le plus de ce qu'ils ont essayé de bosser sur Watch the Throne,
mais
sur ce que fait Kanye West.
Sur Watch the Throne,
mais du coup, c'est le Kanye West plus que du Jay-Z, quoi.
Sur Watch the Throne, c'était ça. On sentait vraiment que Jay-Z avait été complètement, c'était fait embarquer dans l'univers de Kanye West. Le côté baroque, complètement grandiloquent, c'était du Kanye West. Jay-Z, il a jamais fait ça. Donc là, en effet, après Watch the Throne,
Crown, il manque juste le clip réalisé par Woodkid et on est bon, quoi.
C'est un
quelle horreur.
Pour le coup, rebondissant sur Yeezus, qui n'a quand même pas du tout le même impact en termes musical.
Moi, je pense que Yeezus, c'est l'anti-Magna Carta. Le yin et le yang, tu vois.
Ouais, je suis d'accord. Parce que pour le coup, c'est hyper. C'est hyper culotté, il y a un vrai choix, il y a vraiment un truc.
Il y a une vraie prise de risque. Alors
C'est ça en fait, le résultat est beaucoup moins agréable à écouter que Jay-Z. Et en ce qui concerne, Jay-Z n'était pas déjà très agréable à écouter.
Je crois que c'est pas agréable. C'est moins immédiat en fait.
C'est plus une prise de position musicale.
Tu vois, le Jay-Z, pour revenir un peu sur le Jay-Z, si les gens l'aiment bien, ça c'est parce que c'est immédiat. Parce que tu reconnais dans l'inconscient, tu reconnais une prod des Neptunes, tu reconnais un truc que tu as déjà entendu. Et du coup, t'as pas besoin de travailler pour l'aimer.
C'est plus référencé en effet.
C'est ça, c'est très référencé. Ouais.
Alors que moi en effet, le Kanye West, le Jesus, c'est une des rares fois où après la première écoute, j'arrivais pas à me prononcer un véritable avis sur le disque. Alors que généralement, tu dis, je vais le réécouter, il y a un ou deux morceaux que j'ai pas forcément capté, mais voilà, j'aime bien ce disque ou je l'aime pas. Là, il y a des morceaux que j'ai pas compris, genre les morceaux genre I Mean It, la première fois que je l'écoutais, je savais pas parce que, il y a aucun code en fait, c'est pas du tout référencé pour
Non, mais moi, je précise que Yeezus, je l'ai écouté une seule fois aussi distraitement, voire plus que Magna Carta. J'ai eu l'impression que mon casque, il était mal branché, quoi.
Et je pense que c'est volontaire. C'est volontaire, il y a des cris, il y a le morceau je crois que c'est Almighty Cœur où t'as un crissement, une sorte de crissement à la fin de chaque ligne de son couplet. C'est pas agréable.
Il y a un côté trop de conceptuel, tu le conceptuel quoi.
Mais en fait, moi de ce côté là je pense qu'il est même pas allé au bout quoi, parce que ça ressemble encore trop à des chansons, tu vois. Et c'est la première fois qu'il fait ça, mais je pense qu'il aurait pu aller encore plus loin, tu vois. Parce que tu sens qu'il a voulu effectivement faire un truc un peu conceptuel, genre anti-musique, mais ça reste quand même trop de la musique.
Puis il y a des trucs, moi c'est ça qui à la rigueur me fait le plus chier, c'est le côté un peu branlette, quoi. Genre son artwork qui n'en est pas un. Faire passer ça pour des espèces de parti pris esthético, ok, super quoi.
Ça c'était quand même un gros plan parce que au final, on savait même pas qu'un album qu'allait sortir. Il a fait ses projections de clips dans plusieurs villes. Là, c'est sorti du jour au lendemain. Les mecs, ils ont commencé à avoir la tête de Kanye dans les villes. Enfin, moi, j'ai quand même trouvé ça assez.
Mais Jay-Z, c'est pareil. Hein. Jay-Z, il a annoncé officiellement la sortie de l'album pendant les NBA Finals.
Mais trop tard. Enfin, je veux dire, Kanye venait de le faire. Donc finalement,
mais c'est à dire qu'ils sont à un niveau où ils peuvent se permettre de toute façon. sort un album demain, you, c'est
ouais,
bon, tu vois.
Ouais, mais ils peuvent le faire. C'est différent parce que
Jay-Z, il y avait un business.
Jay-Z, exactement, il y avait un. Enfin, il a sorti l'album en même temps qu'il a sorti une nouvelle manière de vendre.
Je vous sers la transition.
Non, mais voilà, il a vraiment sorti. Il y a l'album, ok, et puis c'est 50% et 50% du reste c'est l'application en fait.
Ouais,
enfin, c'est aussi important finalement et c'est là où on peut regretter. Mais ça fait vraiment partie intégrante de l'album finalement, cette nouvelle manière de vendre la musique. Alors que Kanye finalement, enfin voilà, il a sorti un disque sans promo, mais bon, ouais, il y a une vraie démarche artistique.
Donc c'est ça, Jay-Z est à un stade maintenant où sa musique n'est plus qu'un outil
ça fait partie,
marketing pour vendre d'autres choses.
Ça sert sa marque, exactement.
Alors il fait pas des beats by Dre, mais il fait autre chose et c'est équivalent. Quoi.
Là il a rappé 6 heures dans un musée. Ouais. J'ai vu ce matin, je crois, sur Twitter qu'apparemment ça allait être.
C'est
ça,
un clip.
Évidemment, ça a été filmé. Non, je crois qu'ils vont limite sortir un DVD de mini docu ou je sais pas quoi sur Jay-Z.
Le DVD, tu regardes Jay-Z rapper en plan séquence pendant une heure.
De toute façon, c'était un peu honteux les fans. Enfin, moi, je suis quasiment sûr qu'il a décidé en 3 mois, en appelant Timbaland avec toutes ces petites chutes de studio, de faire un album pour Samsung. Samsung en fait, ça me dirait bien.
Là,
son
album, ça fait longtemps qu'il travaille dessus.
Ouais, mais regarde les vidéos où tu vois Rick Rubin qui a
allongé.
Rick
Rubin,
il a rien fait.
C'est la mise en scène, bien sûr.
Ah non, mais attends, puisque tu parles des vidéos, parce que j'ai été les voir ça aussi, j'étais mort de rire quoi. À quoi sert la beubarde de Rick Rubin dans ses vidéos?
Mais le mec
il est là, il fait semblant d'être intéressé parce que Jay-Z lui raconte et c'est tout.
Bah ouais, mais c'est ça, c'est
une espèce de happening happy few, enfin c'est bizarre quoi.
Ça te lance
c'est une marque, tu vois.
Ouais.
C'est une marque. C'est comme si t'avais marqué sponsorisé par machin, donc c'est cool, tu vois.
C'est là genre sponsorisé par Rick Rubin.
Et tu vois en fait, du coup t'as un peu la promo qui était parée des deux côtés, c'est-à-dire on balance l'info qu'on sort un disque du jour au lendemain. Sans trop en écouter.
Exactement. Et sans clip, sans rien
du tout. Parce que pourquoi? Parce que pour les gens, ça va de soi que c'est bien, parce que c'est Jay-Z, parce que c'est Kanye, parce que leur nom, il est plus grand que le rap, comme on disait tout à l'heure.
Mais je trouve quand même que Kanye avait une démarche plus artistique,
voilà.
Genre c'est de diffuser des clips, machin, de faire un artwork et tout, alors que Jay-Z c'était que consumériste quoi.
Mais du coup, tu vois, Kanye il a profité de ça pour servir un truc que son public n'aurait pas acheté sinon, tu vois.
Ouais, c'est sûr.
Alors que Jay-Z, il sert de ça pour faire de la pub en fait.
Ouais, Jay-Z, c'est du velours son album. Enfin, il est vraiment en mode confort, tu vois, il prend aucun risque.
Il y a un côté un peu schizophrène avec Kanye West. C'est-à-dire, j'arrive pas, ne connaissant que très peu son travail, à distinguer la limite entre. Voilà, la vraie démarche artistique dans ses projets et l'espèce de mégalomanie paranoïaque qu'il caractérise.
Ça fait partie de sa musique, moi, je pense.
Ouais.
Et il y a un moment, ouais, voilà, en fait, entre la vraie démarche artistique et l'auto-branlette, quoi. C'est...
Ouais, mais après.
Je pense qu'il synthétise tout ça, en fait. Et puis, je pense que c'est vraiment l'artiste qui a fait passer le rap dans le monde complètement du people 300% d'internet, des buzz à soi, enfin il y avait pas
des
tout ça
avant. Mode.
Même Jay-Z finalement il appartient encore à l'ancienne école.
Parfois tu sens qu'il a quand même encore cette envie de vraiment rapper, tu vois, de toujours encore vouloir être accepté en tant que rappeur.
Ouais.
Finalement sur Yeezus, c'est alors je prends de gros guillemets, mais c'est du rap engagé sur certains morceaux. Il y a vraiment encore ce côté, tu sais, je veux délivrer un message et moi, ouais. Et là je rejoins ce que tu dis, c'est que je sais pas dans quelle mesure.
Ouais, mais c'est un message en tant que tel ou c'est un message à l'autogloire de...
Il y a du ça bien sûr qui se branle, enfin depuis le début il a toujours été dans la branlette Kanye. Il y a encore ce côté, enfin Black Skinhead c'est ça, New Slave c'est ça, il y a encore le côté le racisme aux États-Unis etc. Il en parle encore beaucoup. Là où Jay-Z, il en parle pas, il parle que de sa vie, de Gwyneth Paltrow et ses week-ends avec Bono, tu vois. mais Kanye est assez différent là-dessus, où tu sens qu'il, et je sais pas dans quelle mesure il y croit. Ouais. Est-ce qu'il est vraiment naïf? Est-ce qu'il pense qu'il peut vraiment changer le monde?
Est-ce que c'est important ça, tu vois?
Non, mais ça influe sa musique aussi.
Ouais, mais du coup,
il en parle beaucoup.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est que ça se retrouve dans son son à Kanye. Qu'il est fou.
Exactement.
Alors que. Du coup, ce qu'ils disent, moi je m'en fiche un peu, tu vois, d'un seul coup ils découvrent Black Panther ou je sais pas quoi, tu vois.
Ouais. Non, mais c'est même pas d'un seul coup, parce qu'il a toujours eu des phases comme ça en fait.
Ouais,
mais ce qui est marrant, c'est que justement Jay-Z, en évoluant, il a complètement perdu ce côté-là et à la limite, c'est cohérent avec sa nouvelle situation. Mais là où Kanye, tu sens qu'il veut, il revient vachement là-dessus et d'où des morceaux comme New Slave, comme Black Skinhead qui sont quand même, tu vois, qui sont assez durs au final, tu vois.
Ouais.
Et voilà.
Et comment on passe dans le registre mogul, rappeur businessman d'un Master P avec No Limit, il y a 15 piges à Jay-Z et Kanye West aujourd'hui?
Bah, je pense qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Hein.
Ouais, c'est complètement deux façons.
Des histoires parallèles du rap qui ne sont jamais croisées, je crois.
D'accord.
Bah, Jay-Z, peut-être au tout début, quand il était vraiment son délire un peu avec Rockefeller, quoi.
À partir du moment où il a arrêté, Black Album, machin, après c'était fini. Ouais. Une fois qu'il s'est retrouvé vraiment tout seul, je pense que c'était complètement fini. Il était plus dans cette logique-là, c'était la logique Jay-Z, quoi. Ouais. Et pour faire la conclusion sur les deux albums, je pense, enfin moi, ce que je trouve vraiment, c'est que on sent que Kanye West, par contre, ça sera toujours un moteur créatif de psychopathe. Ouais. Il a 15 000 idées à la seconde. Des fois, il y en a, elles sont pourries, des fois, il y en a, elles sont géniales. Et que finalement, c'est vraiment Jay-Z, c'est là que tu te rends compte que c'est plus du tout un moteur créatif du tout. Ouais. Il se repose sur toutes les créations des autres. Il les synthétise, donc c'est intéressant parce qu'au final, peut-être qu'il va faire connaître. Moi, je trouve ça cool qu'il y ait une prod de Mike Will, tu vois, parce que c'est. Tu vois, moi, j'aurais kiffé.
Mike Dean
aussi, ouais. Mais Mike Dean, ça fait longtemps qu'il bosse avec Kanye. Mais Mike Will, c'est cool. Et tu vois, j'aurais kiffé qu'il y ait par exemple un featuring avec Future ou qu'il y ait des mecs qui sont vraiment en place en ce moment, que nous on écoute et qu'ils les fassent rayonner à, tu vois, genre à des gens qui écoutent pas trop de rap, quoi.
Alors que non. Alors que ça fait dîner mondain son album, tu vois, c'était Rick Ross, Justin, tu vois, c'est vraiment la réunion des copains dans un salon luxueux, quoi.
Mais bon, c'est pour les émissions d'Ardisson sur.
Parce que plus que de faire découvrir des gens, en plus là avec cet album-là, Kanye West, il invente rien parce que Camutao, il a fait des trucs qui ressemblaient, parce que ça ressemble à du Animal Collective ou des choses comme ça. Mais parce que c'est lui qui le fait.
Et ça prend une autre dimension.
Ça prend une autre dimension parce que ça, voilà, ça devient mainstream en fait. Et du coup, tu vas avoir des petits jeunes qui vont écouter ça, qui vont se retrouver complètement lobotomisés par le disque et qui vont le faire complètement libérer de toute idée artistique ou de je vais faire ci, je vais faire ça ou machin. Qui vont le faire le plus simplement possible et ça va être génial.
Parce qu'ils comme ce qui s'est passé avec 808 à l'époque, voilà, où ça a ouvert des portes, où il y a plein de nouveaux rappeurs qui ont complètement adopté ce son-là. Et bon, Drake par exemple, c'est l'exemple le plus flagrant, mais il y en a plein d'autres, mais en effet.
Bah, on verra justement.
Kanye, on a envie d'écouter la suite. En tout cas, moi j'ai envie de savoir. Alors que Jay-Z, je l'écouterai parce que c'est Jay-Z, mais moi,
j'ai surtout envie d'attendre dans un ou deux ans le petit qui fera un Jesus impact, sa sauce. Quoi.
Et est-ce qu'il y a un Watch the Throne 2 dans les tuyaux?
C'était prévu.
C'est
ce
qu'ils ont dit. C'est assez sûr.
Ils l'ont même confirmé. Il y a Mike Dean qui l'a confirmé, qui bossait dessus. Il y a eu pas mal de confirmations qui ont été faites. Eh bien, on va s'écouter un petit morceau de cet album de Kanye West, Jesus.
On parlait d'8-8.
Un morceau de
Blood on the Leaves qui a presque l'air d'être une piste perdue de 8-8 en fait.
C'est vrai. Et qui reprend un morceau de Sea Murder en
Free
plus.
Sea Murder.
Allez, on s'écoute ça tout de suite.
Strange fruit hanging from the poplar trees. Blood on the leaves.
I just need to clear my mind now. It's been racing since the summertime.
Free.
Now I'm holding down the summer now.
Please.
And all I want is what I can't buy now.
Blood on
cause
the
I ain't got the money on me right now. And I told you to wait.
Please.
Yeah, I told you to wait.
Please.
So I'ma need a little more time now.
Blood on
cause
the
I ain't got the money on me right now. And I thought you could wait.
Please.
Yeah, I thought you could wait.
Please.
These bitches surrounding me. Then they talk about me.
Please.
Would be lost without me. We could have been somebody. Thought you'd be different about it. Now I know you're not it. So let's get on with it. We could have been somebody. Said you had to tell somebody. Let's take it back to the first party. When you tried your first Molly, it came out of your body. It came out of your body. Running naked down the lobby, and you were screaming that you love me. Before the limelight tore ya, before the limelight stole ya. Remember we were so young. When
from the poplar trees.
You could have been somebody. We could have been somebody. Was it on the first party? When we tried our first Molly, it came out of our body. It came out of our body. Yeah. Before they call lawyers. Before you tried to destroy us. How you gon' lie to the lawyer? It's like I don't even know ya. I gotta bring it.
get back to the nigga. Fuck them other niggas, cause I'm down with my niggas. Fuck them other niggas, cause I'm down with my niggas. Fuck them other niggas, cause I'm down with my niggas. I ride with my niggas, I die for mine. To all my second stream bitches, try and get a baby, try and get a baby. Now you talking crazy. I don't give a damn if you used to talk to Jay-Z. He ain't with you, with Beyonce, need to stop acting lazy. She Instagram herself like bad bitch alert. He Instagram his watch like mad rich alert. He only wanna see that ass in reverse. $2,000 bag with no cash in your purse. Now you sitting courtside, wifey on the other side. Gotta keep them separated, I call that apartheid. Then she said she pregnantated. That's the night your heart die. Then you gotta go into your girl and report that. Main reason, cause your bestie said you can't abort that. Now your driver say that new Benz, you can't afford that. All that cocaine on the table, you can't snort that. That going to that, all that money that the court got. On and on the alimony. Yeah, yeah, she got you, homie. Yeah, till death but do your part. Unholy matrimony.
Black bodies winging in the summer breeze.
Well, there's two kind of people who listen to rap, my friend. Those with loaded iPod and those who dig. And we dig.
Alors sans transition, on change radicalement d'univers.
Yes.
On part du côté de la Bay Area dans Deep Urban Rap avec un focus sur le label Dockland Lavoyer Records. Donc qu'est-ce que je fais? Je présente un peu le label.
Allons-y, on les connaît pas nous.
Genre tu les connais pas. Bon, et bah écoute, c'est simple, Lavoyer Records, c'est un label qui a émergé dans la deuxième moitié des années 2000 et qui est assez symbolique de ce qu'on peut appeler le New Mom Music. La New Mom Music, c'est un courant post-hi-fi, pré-function music. Ceux qui connaissent, il y a d'autres rappeurs assez symboliques de ce délire-là, comme les Mob Figaz, par exemple.
Yes.
Et donc on retrouve des ramifications vers les villes satellites de la Bay Area que sont Akron dans l'Ohio, Kansas City ou Sacramento. Mais c'est vraiment un délire très local. Hein. C'est en fait l'héritage de la mob music des années 90. Donc ça c'est les labels phares de ces années-là là-bas que sont Dangerous Records, Too Short, Sick Weeded Records,
E40,
bien sûr. Young Black Brother Records avec Kerry, tous les producteurs Kellou, Sam Bosty, Ken Banks, Letty, Mike Mosley, Ton Capone, Studio Ton, enfin tous ces gars-là. Voilà, c'est ça la mom music, c'est des grosses basses bien vénères.
Musique de voiture, quoi.
Exactement, bah voilà la culture out of the trunk, typiquement locale, hein, tout le bicravage de cassettes et de CD directement depuis le coffre de la voiture ou du camion, ça c'est né. Du côté de San Francisco et de la East Bay, mais c'est à la fois donc ça, des sonorités avec des grosses basses assez froides, assez sombres. Les New Yorkais pourraient appeler ça grimy, mais en même temps avec l'utilisation de samples de funk fin 70s, 80s principalement. Donc une tonalité un peu joyeuse, un peu funky,
un peu smooth.
Et tout ça mélangé fait un cocktail. Assez bizarre, ouais, voilà. C'est à la fois festif et à la fois dépressif, on ne sait pas trop, des fois les deux en même temps, et c'est ce qui fait le charme, en tout cas si on me demande mon avis, de ce type de sonorité.
Un style hyper à part.
Et donc les deux pools de producteurs phares pour ce type de sonorité, c'est d'un côté DJ Fresh, qui se fait désormais appeler The World Freshest, et ses petits...
Ça pour lui.
Bah, le fameux DJ Fresh, mais j'ai vu que maintenant il a même fait The World Freshest.
Ouais, The World Freshest.
Très bon, très bon.
Peut-être qu'il y a un autre DJ Fresh.
Ouais, il y en a un autre, ouais.
Il y en a un qui était DJ Triptych.
Ouais, il y a un londonien qui s'appelle DJ Fresh, et quand tu googles DJ Fresh, tu tombes sur lui plutôt que sur celui de la baie, donc je pense que c'est pour ça qu'il a changé.
Ah, d'accord. Mais en plus, en parlant de DJ Fresh, vous aviez fait avec... Fusil à pompe,
ouais, on a fait une best-of
pour ceux qui connaissent pas et qui veulent découvrir son univers, et qui justement est vraiment très très fort dans le creusage
de sample 80s,
exactement, et
funk et jazz.
Et donc voilà, il a des petits qui bossent aussi pour lui, réunis au sein du Wall Shabba Gang. J'ai dit quoi? Wall Shabba Gang, pardon. Il y a Jam Andrew notamment, que j'avais capté là-bas en studio avec DJ Fresh, etc.
Et, parce que tu es parti à San Francisco, je pense qu'il faut.
Ouais, alors oui, alors je vais effectivement préciser que j'ai passé 3 mois là-bas fin 2010, début 2011. Et en gros, j'ai ridé non-stop aux quatre coins de la Bay Area avec Stevie Joe, voilà, qui est un des membres de la Voyeur Records, qui j'ai fait office de chauffeur, et l'échange de bons procédés, c'est que lui m'introduisait partout. Donc j'ai rencontré tous les mecs de la Voyeur, j'ai rencontré les Mob Figas, j'ai rencontré plein de gars comme ça.
En fait, ta deuxième vie, c'est un peu chauffeur.
Non, mais c'était
chauffeur de Joseph Staline. C'est génial.
Le père de Staline est monté dans la caisse plus d'une fois, effectivement. Mais pour revenir au producteur, donc voilà, DJ Fresh et le Wall Shabba Gang d'un côté, de l'autre le duo de Mechanics composé de Kenny Tweed aka The Great, et de Dotrix 4000, voilà, qui sont vraiment les pères fondateurs de la new mom music, enfin c'est comme ça que je la définis, mais bon, vous aurez compris. Le fonds de commerce de ces gens-là, je parle du point de vue contenu, c'est vraiment le D-Boy Blues. Donc le D de D-Boy, c'est bien sûr la drogue, la dope. Ça aussi entre le pur ego trip et la chronique un peu désabusée de la survie dans le ghetto d'Oakland. Donc misère, violence, style de drogue, qui est le lot commun de cette génération de 80s babies, donc les gamins nés dans les années 80. Enfant illégitime de l'administration Reagan et du crack, voilà. Mais également, et c'est ça aussi qui fait la particularité de la Voyeur Records, et en particulier Jay Staline et Phil Cyrish, qui s'en sont fait une marque de fabrique, un mélange un peu macho lover, mièvre salace, rap R&B, appelez ça comme vous voulez, mais qui s'adresse à leur public féminin. Moi j'aime bien dans une certaine mesure, parce
un peu
que...
pimp cool, quoi.
Ouais,
voilà, c'est des trucs.
C'est les pimps, mais qui vendent plus de femmes en fait.
Ils ont pas peur de chanter.
Ils ont juste
faux.
Gardé l'attitude, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais.
Exactement. Et bah tout à l'heure, je disais en début d'émission que j'avais bouffé du New Jack et du R&B dans mon adolescence. Donc c'est pour ça que moi ça ne me rebute pas plus que ça. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont tendance à le faire de plus en plus en pilotage automatique. Bon, donc certains die-hard fans du street rap pur et dur auraient tendance à leur reprocher ça, mais bon.
Des fois, c'est un peu mièvre.
Bah, c'est ce que je dis,
ouais. Un peu fruité.
Non, mais ouais, c'est exactement ça. Mais en même
pour
temps.
Pour la ménagère de moins de 50 ans.
C'est pas un délire qu'ils ont adopté parce qu'ils se sont rendus compte que ça pouvait plaire aux meufs et leur apporter un public plus large.
Ouais.
Jay Stalin, dès ses débuts, vers 2005-2006, il était déjà dans des délires comme ça. Il y a un morceau notamment, attends, je l'ai noté quelque part.
Moi, je pensais vraiment qu'il était inspiré de Drake, en fait. Mais après, c'était mon point de vue, hein, je sais pas.
Sortez-le, sortez-le.
Ok, un premier blâme pour.
En fait, il faut peut-être préciser aussi que en France, le côté chanté, c'est vrai qu'on associe ça vachement au R&B de femme, ouais. Un peu, voilà. Alors qu'aux USA,
une grosse culture,
c'est un truc gangster de chanter, en fait.
Ouais,
hein. Et les mecs en prison, ils écoutent des rappeurs qui chantent. Hein. Faut pas croire que c'est un truc de mec bizarre, quoi.
Non, c'est sûr. Hein. Bah ouais, c'est clair qu'il y a plus une culture soul et tout, même.
Ouais, voilà.
R&B, ouais, qui sont vraiment des mecs, c'est des vrais mecs, quoi. Mais c'est vrai qu'en France, tout de suite, ça fait penser
à Matt Pokora, quoi.
Ouais. Bah c'est là, pas, t'as pas l'impression que
là c'est le côté très compartimenté de la vision française, ouais, voilà. de la musique, alors que là-bas tout se mélange sans arrière-pensée, sans scrupule, naturellement.
Après, si on parle des rappeurs, enfin rapidement des rappeurs français, c'est aussi qu'eux le gros problème, c'est qu'ils ont écouté que du rap généralement dans leur vie.
Ouais.
En effet, les rappeurs US, ils ont écouté plein de chanteurs de soul, plein de chanteurs de.
Ah non, je t'arrête tout de suite. Ils ont aussi écouté Georges Brassens et Jacques Brel, apparemment tous.
Jacques français.
Ouais, chaque fois que tu sors un rappeur français, il te dit, j'écoute Jacques Brel.
Ofo et Renaud.
Il le digère plus ou moins bien. C'est ça le problème. Ouais. J'ai retrouvé le titre du morceau que je mentionnais, c'est Cupcakin. Allez sur YouTube et checker le clip, c'est des barres de rire parce qu'en fait on sait pas trop si c'est parodique ou si c'est vraiment premier degré. Je me rappelle plus, il est avec un chanteur R&B qui fait des phases, mais tu vois, le mec il est à fond dedans et tout. C'est vraiment des barres de rire.
Je pense qu'il faut quand même qu'on s'arrête sur le fait qu'il s'appelle Joseph Stalin. On en a pas parlé encore.
Donc alors, Jay Stalin, c'est le leader de La Voix Records, c'est vraiment boss. La figure centrale. Jay Stalin, parce que comme lui, il est petit et il a tout le monde à sa botte.
Et il est vénère aussi.
Ouais, il aurait pu s'appeler, je sais pas, Cortex.
Non, mais je pense qu'il y a un parti pris politique derrière. Voilà.
Non, puis Jay Stalin, pourquoi? Parce que JS, les initiales, et son vrai nom, c'est Jovan Smith. Voilà.
Ah, tout s'explique.
Ah, voilà. Ah ouais, il y avait quand même un petit lien.
Ah, les vraies choses se font. D'accord.
Voilà, je vais présenter vite fait les membres du roster La Voyeur. Donc il y a le 5 majeur, Jay Stalin, bien sûr, mais également Shady Nate, Phil Cerich, Stevie Joe et Lil Blood. Après, il y a plein d'autres gars qui font office de remplaçants. Il y a parmi les plus connus, je ne vais pas tous les citer, mais il y a Jay Jonah, il y a LJ et Lil Kev qui sont un peu les chanteurs R&B attitrés du label. Et c'est aussi pour ça que voilà, leur délire R&B des fois peuvent être un peu casse-couille. C'est parce que LJ et Lil Kev, ça a beau être mignon, ça arrive pas à l'orteil d'un Levity à l'ancienne. Parce que voilà, ça aussi c'est une tradition de chanteurs R&B qui posent les refrains qui datent d'il y a longtemps. Et puis enfin voilà, Ned Dogg, Cocaine.
Ah, c'est un autre délire. Ouais.
Voilà.
En fait, il y a un peu une différence entre les mecs qui font que chanter et les rappeurs qui chantent, peut-être.
Ouais.
Parce que, genre, LJ, là, c'est pas pareil que quand c'est Jay Stalin qui chante son refrain, je trouve.
Ouais, c'est sûr. Ouais.
Non, mais en plus, Jay Stalin, il sait pas chanter, mais c'est ça qui est, ouais. C'est ça qui est rigolo.
Ça fait partie du truc.
Ouais.
Je pense qu'on pourrait parler des rappeurs qui chantent faux, mais quasi comme une position.
Mais c'est, en fait, est-ce que c'est faux ou c'est juste pas dans les codes de la musique occidentale, ouais, toi de la musique occidentale.
Attends,
mais...
attention, là, on a un point. C'est comment s'appelle le point.
On va loin, là.
Quand tu te mets à parler du nazisme, c'est le point.
Le point Godwin.
Ouais, voilà, là c'est presque le point Godwin. Les codes de la musique occidentale.
Non, mais tu vois, les codes, t'es la musique, comment dire, t'es la musique classique, tu vois. Genre, ça c'est faux, ça c'est juste. Bah, c'est juste qu'il y a une manière de chanter qui est en dehors de ces codes-là, tu vois.
Tu dirais que c'est quoi? C'est dissonant? Même pas?
Peut-être que quelqu'un qui serait très à cheval sur cette chose-là dirait que c'est dissonant.
Ouais.
Alors que non, si ça sonne bien à l'oreille, moi j'aime bien, tu vois, comment il chante.
Moi aussi j'aime bien.
Ton oreille, il faut la travailler pour qu'elle puisse apprécier.
Je me fais l'avocat du diable, mais moi je trouve que de base c'est faux. Enfin, tu vois que c'est pas dans les harmonies que ça devrait être.
Ouais.
Mais que je trouve ça intéressant.
Ok. Ouais.
Mais après, je me dis.
Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est faux? C'est ça.
Ouais, non, je dis pas.
Je vous ai perdu, les mecs là.
Ouais, on s'égare.
Non, mais bon, pour résumer, à la fois au niveau forme et au niveau fond, et c'est ça qui est intéressant avec un label comme La Voix Records, il y a un côté très smooth, très player, très dragueur de meufs et très street, très désabusé par rapport au quotidien du ghetto d'Oakland qu'ils ont tous vécu. Donc ouais, j'ai cité les 5 membres principaux, il y en a pléthore derrière, il y a aussi l'ex stagiaire ball boy pour suivre la métaphore basketballistique, un peu neuneux. Je pourrais pas dire ça, mais bon. Non, mais voilà, c'est un mec avec qui j'ai pas mal traîné avec lui là-bas, etc. Lui aussi, je faisais chauffeur, il habitait à South San Francisco, fallait que j'aille le chercher tous les soirs.
Kicker le chauffeur.
Oakland et tout. C'était rigolo. Yeah, can you pick me up, etc. Enfin, bref. Et qui aujourd'hui
Il y a un problème de transport en commun à Auckland ou comment ça se passe?
Bah il y a le BART,
les routes sont longues,
qui est la RATP locale, mais c'est vrai que c'est plus pratique en bagnole quand même.
Et c'est moins cher en plus quand t'es un chauffeur.
Et en parlant de BART, Jestaline quand il était môme, il vendait des bonbons, des barres chocolatées là-dedans, et puis quand il revenait dans son hood, il vendait de la drogue. Mais je vais
garder un petit coup sur les sucreries quoi.
Donc l'ex stagiaire aujourd'hui. Occupant le poste très honorifique de président de La Voyeur Records, c'est Nano. Et puis il faut aussi le citer, bien sûr, c'est celui qui potentiellement aurait pu devenir le franchise player, mais qui s'est fait virer de l'effectif, c'est Lil Roux, suite à une brouille. J'ai jamais trop compris ce qui s'était passé avec Phil Sirich, qui pour sa part est un peu le connard de la bande. Ouais, c'est
gaffe, hein. D'ailleurs il y a un peu une deuxième référence à la Russie soviétique. Parce que comment ils l'ont viré, Jay Staline, ils ont fait une espèce de réunion de soviets, tu vois. Ils sont tous réunis, ils ont voté pour savoir est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le sort.
Ah bon?
Et donc à l'unanimité, ils ont décidé de le virer, quoi.
À l'unanimité, carrément.
Ouais.
Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas voté?
Non, mais ils n'ont pas poussé la comparaison jusqu'à l'envoyer en goulag au fin fond de la DRIA.
Peut-être s'ils se croisent, ça finit mal pour lui.
Non,
hein,
mais
rien,
alors, moi, aux dernières nouvelles, Stevie Joe m'a dit qu'ils avaient enterré l'âge de guerre, qu'ils étaient cool. Alors,
ils ont enterré Lil Roux.
Non, mais donc, bref, non, mais c'est récent en plus, hein, ça date de.
Il y a deux ans.
Ouais,
deux ans. Ouais.
Et ouais, parce qu'en fait, Lil Roux est un peu plus jeune, genre il a 5-6 ans de moins que Phil Sirich. Et, ah. Bon, il s'est embrouillé pour des conneries.
Mais du coup, il a fait un passage éclair dans Livewire.
C'est jamais très intéressant. Et il y a Edgy aussi qui était. Sinon un membre officiel de La Voyeur, du moins un affilié qui a posé sur la plupart des premiers projets. Mais bon, les deux, Lil Roux et Edgy, ils ont aussi un crew à côté.
En fait, Edgy, je pense qu'à un moment, il aurait dû en faire partie. Je pense que ça n'a jamais été le cas de La Voyeur. Et Lil Roux et Edgy faisaient partie du crew qui est maintenant, c'est Edgy tout seul avec quelques potes à lui, mais qui ne sont pas forcément aussi intéressants qu'eux. Il s'appelle Burfaced. Et donc pendant... Allez, 6 mois, il y a eu Lil Roux et HD, mais ils se sont embrouillés aussi. Parce que je pense que Lil Roux, il doit être casse-couille, tu vois.
Ouais.
Et du coup, maintenant, Lil Roux, il est nulle part, quoi. Il est ni dans Burface, ni dans Livewire.
Ah, merde.
C'est un peu un talent gâché parce que le mec, il sait pas se tenir, je pense.
Ouais.
Enfin, c'est un talent gâché parce que je pense que le mec, il prend beaucoup trop de drogue, en fait.
Non, mais j'écoutais une interview sur Sickness de Phil Sirich qui expliquait pourquoi il s'était embrouillé, etc. Et qui disait. Il l'avait vu en studio, il avait deux yeux au beurre noir, et que si lui avait eu des yeux au beurre noir, il serait pas en studio, il serait resté chez lui, il aurait eu honte, etc. Enfin, bon, bref, voilà, des clashs un peu débiles, comme par définition le sont les clashs. Et donc, ça, c'est pour les membres du label. Après, on peut revenir vite fait sur Jay Staline, parce que forcément, c'est lui le fondateur du truc. Donc, d'après sa page Wikipédia. Il serait né en 87.
Déjà, il a une page Wikipédia, ça va donner à tout le monde.
Ah non, vrai, mais attends, mais ils ont tous, Shedinette, Lil Blood, Phil Sirich, même si.
Parce que c'est eux qui les ont fait.
Ouais, mais t'es effaces, hein, si t'es pas connu, t'es effaces. Hein.
Ah ouais?
Genre, type Tommy Wright, il a pas de page Wikipédia. Il y a marqué qu'il est pas assez connu, si tu veux la faire.
Ah bon?
Ouais.
Il est pas assez connu.
Ah putain, le donc, disrespect
vois,
total.
Jay Staline, tu vois. Il y a une page Wikipédia.
Ouais, mais est-ce que tu tombes pas sur un mec avec une moustache?
Non, attends, vrai, je te la montre, elle est réelle. Regarde. Attends, parce que je l'avais.
Par contre, il n'y a pas de page du label. Ah, oui, regarde. Mais il y a deux pages pour chaque artiste.
Non, regarde, regarde. Non,
t'as bien travaillé, Midi.
J'ai fait mes devoirs.
Check Nemo. Elle est là, elle est longue. Il y a toute sa discographie et Dieu sait qu'elle est pléthorique. Ouais, donc voilà, il est né à deuxième moitié des années 80. Il a grandi à Cypress Village, qui est une cité de West Auckland. En fait, quand tu prends le Bay Bridge et que tu traverses de San Francisco à Auckland, c'est tout de suite en sortant.
C'est le point géographique, hein, je crois que c'est.
On sent l'ancien chauffeur.
La traversée du Bay Bridge, je l'ai faite beaucoup de fois.
Et ils sont tous de là-bas ou non?
Alors, ils sont tous d'Auckland, de différents quartiers de la ville. Et en l'occurrence, donc, quand Jay Staline cite 10th Street, le titre de son nouvel album double produit par DJ Fresh.
The World's Freshest.
Hein? Bah, oui, exactement.
The World's Freshest. Oh, mais j'ai fait mes devoirs.
Le gars
est bon, il est bon.
Le gars est précis.
Donc Miracle and Nightmare on 10th Street, parce que la 10ème rue, c'est la rue principale de Cypress Village, qui n'est pas un quartier en fait, c'est vraiment une cité. Avec des immeubles, etc. Mais bon, c'est dégueulasse, quoi. La petite anecdote, c'est quelques jours avant Noël 2010, tournage du clip 80s Babies Remix, le Livewire Remix, donc avec les autres membres du label en featuring dessus, qui est à la base un morceau sur l'album 80s Baby de Stevie Joe. Et donc, ça a été tourné juste à côté de Cypress Village, ça caillait bien, et c'était marrant. Ils étaient tous là, on a posé. Stevie Joe qui expliquait que justement pour un clip, le plus dur c'était d'arriver à réunir tout le monde au même endroit. Parce que si c'était un clip solo, il en ferait 3 par jour. T'avais, vu que c'était juste avant Noël, Jess Staline qui avait un bonnet de Père Noël. Truc complètement improbable. Ça, il y a un moment on devait changer de location, de lieu pour, pardon, de tournage. Oui, voilà, je fais mon Jean-Claude Van Damme, excusez-moi. et là, moi j'étais donc venu en caisse, et là il y a Lil Blood qui arrive avec sa meuf et un autre rappeur de la bande. Et je me retourne et je fais, hey, this is my car. Et donc les gars, ouais, hey, look at this nigga from Paris, he's coming all the way, etc. Et en gros, pour, tout ça pour se faire piquer sa caisse. Donc là, c'est mort de rien.
En plus, le chauffeur se fait piquer sa caisse.
Non, mais voilà, tu vois, c'était bonne ambiance en fait. Stevie Joe, c'est vraiment lui. C'est vraiment lui avec lequel j'ai sympathisé tout de suite et qui m'a connecté avec les autres.
Est-ce que c'est un peu le tonton? Parce qu'il a l'air de faire 3 têtes de plus, d'être plus vieux, non?
Alors. J'ai employé le terme de 5 majeurs tout à l'heure. Ouais, Jess Staline, c'est vraiment le meneur. C'est le leader, le cerveau de la bande. Lil Blood, c'est l'arrière. Chez Dinette, c'est l'ailier. Et puis techniquement et rapologiquement, c'est vraiment le plus doué de tous, hein, chez Dinette. Et puis les deux intérieurs, Phil Sirich, tu sais, qui met les coups de coude, qui est un peu le
Dennis Rodman.
Ouais, le mauvais de la bande. Et Stevie Joe qui est dur dans la peinture. Stevie Joe qui d'ailleurs est le neveu de Gary Payton, véridique. Hein.
Ah ouais,
ouais, ouais, ouais. C'est le neveu de. C'est le frère de sa mère, Gary Payton. Et donc il y a des photos sur internet, tu le vois, adolescent, jeune.
On dirait une rime de la fouine. Ça devient trop compliqué, là, dans l'arbre généalogique.
Stevie Joe est le neveu de Gary Payton, bah, qui est
le frère,
à l'instar de Jason Kidd, une des gloires locales basket.
Et qui est à fond dans le rap en plus, un pote de D40 et tout.
Ah, mais Gary, bien sûr, ouais, carrément.
Il a fait des morceaux, non? Il a pas fait des.
Non, il apparaît dans l'équipe D40 souvent.
Ah ouais.
Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu retrouver Gary Payton dans la fameuse compil B-Ball Basket Secret là, qui est sortie en 94, je crois, ou sur laquelle figurait Jason Kidd.
Jason Kidd, il rappe.
Très grand rappeur, ouais, Jason Kidd.
C'est vrai.
Ouais, il y a un morceau qui est
J'adore.
Produit par.
putain,
j'ai un trou de mémoire, mais.
Featuring avec Scarface.
Qui est produit par un des mecs, comment il s'appelle, le producteur de Digital Underground, qui bosse avec Tupac. Ça va me revenir, bref, je le préciserai.
Non, c'est pas le producteur.
Lui. Mais non, c'est pas Shoggy, c'est l'autre. Peu importe, enfin, bon. je le préciserai. Et donc, ouais, voilà, Stevie Joe, neveu de Gary Payton. Et tout ça pour dire que, voilà, il m'a ramené dans des tournages de clips, dans des concerts. On est parti à Modesto, à Stockton, qui sont, on va dire, la banlieue très lointaine de la Bay Area. C'est des villes pas très intéressantes. Le concert à Modesto, il s'était fini avec une bagarre de meufs, les flics qui sont intervenus dehors, la lacrymo partout, enfin n'importe quoi. On a fait des release parties, notamment l'album, putain, comment il s'appelle ce rappeur, je sais plus, en gros, c'était à Oakley. Non, mais ça va en revenir. C'était à Oakley, donc
pour toi,
vraiment
si
le.
Tu nous écoutes, le gros.
Le gros rappeur.
Ça n'existe pas, les rappeurs gros.
C'était à Oakley, donc c'est vraiment le nord de la baie. C'était un coin paumé, il y avait personne, et ça caillait.
Je trouve que tu oublies assez vite Action Bronson.
Non, en fait, il n'y a pas de gros, c'est
non,
soit obèse,
des rappeurs,
soit...
quoi.
Et là aussi, ça s'était fini avec une baston entre une meuf, de toute évidence, bien alcoolisée, qui a essayé de piquer la chaîne Bling Bling de Phil Sirich. Donc Phil Sirich lui a collé une tarte, et c'est parti en couille à ce moment-là.
C'est Nabila, non?
Non, elle était bien plus crade que Nabila.
Oh bah putain.
Non, bah Nabila.
Prenez plus de douche.
Celui qui me dit qu'il veut pas en faire son 4 heures, c'est un mytho. Bon. Bref. Ouais,
digression, non, digression.
Ouais, digression un peu sale là.
Ça, et non, et l'autre anecdote qui est assez gaulerie, enfin, si on peut dire, on était en soirée, le lendemain matin, Stevie Joe m'appelle. Et il me fait, ouais, faut que tu viennes. J'ai un de mes potes qui vient de se faire buter par la police. On a rendez-vous chez sa mère avec ses potes, tu vois, genre peut-être une petite réunion. Donc je fais, ok, super. Et viens, comme ça, voilà, il va y avoir du monde, tu pourras prendre des vidéos.
Ambiance.
Ouais, tu vois, moi j'hallucinais, quoi. On se pointe, et alors il y a dû avoir un quiproquo, et je pense qu'il a dû me dire de rester dans la voiture, le temps que lui aille voir ses potes et lui dise, voilà, je suis avec un Français, blanc, de surcroît, etc. Moi je l'ai suivi, et là je serre la main du frère de la victime, qui je présente mes condoléances, c'est la moindre des choses. Et là il y a un autre noix qui arrive au téléphone, hyper vénère, il me flingue du regard. Là Stevie Joe il me fait discrètement, tu sais quoi, vas-y on s'arrache, je suis désolé, je m'excuse, c'était très maladroit de ma part de te ramener là. Comme t'es blanc, les mecs ils pensent que t'es undercover, ils pensent que t'es un flic. Et du coup on a atterri sur Seminary Avenue, donc la fameuse avenue Seminary dont est originaire le quartier dont est originaire Phil Cerich, qui cite dans la plupart de ses morceaux, qui est pour le coup à East Oakland, et qui est vraiment hyper ghetto. En tant que blanc, en fait, tu te balades pas en tant que blanc tout seul par hasard là-bas, c'est pas possible. Et on a fini dans un barbershop où du coup je me suis fait raser, on a pris des vidéos, c'était tenu par un pote de Stevie Joe, on a tapé le bout de gras, taillé le bout de gras, c'était marrant quoi. Donc voilà, bref, pour revenir.
Vis ma vie de chauffeur de Livewire.
Denis Brasco.
Non mais quand on était parti à Oakley à la fameuse release party, à
chaque fois. Stevie Joe
me disait, mais vas-y, fume mec, allez, c'est moi. Je dis, mais non, mec, je peux pas. Déjà, parce que vos blunts, voilà comment ils sont chargés.
Et en plus, je conduis, merde.
Et en plus, je conduis. Moi, je dois rentrer sur San Francisco après, c'est mort. Et donc là, il m'a dit, non, tu sais quoi, ce soir, c'est un de mes potes qui va conduire, c'est notre chauffeur, tu le laisses gérer. Et donc, il m'a fait fumer, mais voilà le blunt. En dollars, j'étais parti pour la nuit entière. Ouais, non, des trucs comme ça, voilà. Après, il y a d'autres choses, je peux pas forcément raconter. Des expéditions à Santa Cruz, soi-disant pour aller soulever des meufs, qui sont avérés dégueulasses, le gros plan traquenard, parce qu'en plus il y a des mecs locaux qui ont commencé à encercler Stevie Joe, et moi je comprenais rien à ce qui se passait. Viens, vas-y, on s'arrache, alors qu'on avait fait Santa Cruz, c'est une bonne heure et demie de route, facile, hein, voire plus. Il dit non, mais t'as pas vu, une fois dans la voiture, en rentrant une heure à peine après être arrivé, non mais les mecs, on restait 2 minutes de plus, ils sortaient les flingues, ils disaient qu'est-ce que tu fous là, t'es sur notre turf, on te connaît pas, nanana machin, enfin bref. Ouais, j'ai fait 2-3 plans un peu coupe-gorge comme ça, c'était rigolo.
Bonne ambiance.
Où en fait tu te rends pas compte sur le moment parce que tu percutes pas. Et puis c'est après coup que tu dis ah ok,
c'est
d'accord.
C'est à ce moment-là que t'entends Jestaline.
Et du coup, les personnages dont tu parles là, si on les décrivait un peu plus.
Bah, c'est ce que je te dis. Jestaline, c'est vraiment le boss du label, c'est la figure la plus charismatique. Chez Dinette, au niveau de l'écriture.
Tu l'as rencontré et tout chez Dinette ?
Ouais, bien sûr. C'est un de ceux avec lequel j'ai moins échangé, mais.
Il est cool.
Ouais, cool. Et puis voilà, c'est vraiment le plus doué de la bande. Lil Blood, sans le côté complètement bouffon de Jestaline, au bon sens du terme, bien sûr. C'est un sacré personnage aussi, assez marrant, assez jovial, assez loquace. Phil Cerich, ouais, lui, il est cool, tu vois. Moi, il était content de me voir parce que j'étais présenté par Stevie Joe. Tu penses, hein, journaliste français, blanc, avec le caméscope à la main. Il n'y a pas eu de problème. Mais tu sens que c'est un peu le sale con de la bande. On a fait une soirée à Sacramento avec sa meuf, une espèce de bonasse de ouf à qui il a pas parlé de toute la soirée. Il était en train de draguer des meufs à côté. Sur le mec un peu antipathique, quoi. Ça, et donc Stevie Joe qui, sous ses airs patibulaires, est vraiment une crème. Puis en plus, lui a une histoire particulière parce qu'il a perdu sa. C'était pas sa femme techniquement, mais la mère de sa première fille en 2008, qui est morte d'une maladie du sang. Et donc il a fait des morceaux à la mémoire de cette nana là, la fameuse série des Shan Song. Il y en a 4 en tout. La première est sur Ateez Baby, la dernière est sur la mixtape Red Hat Flight. On pourra pas la jouer, mais je la mettrai sur deepervenrap.fr parce que c'est un de mes morceaux préférés de toute la discographie de Livewire Records, parce que voilà, le rap en tant qu'entertainment, c'est mortel, on kiffe tout ça, mais quand ça devient sérieux sur des sujets vraiment poignants où tu sens que le mec il lâche les tripes, il est. Et puis pas pour parler de conneries, de socialo, mes couilles ou je sais pas quoi, là c'est vraiment, voilà, le mec il parle de la mère de sa première fille et tout, et le morceau il est super poignant quoi. Donc voilà, et puis ils sont complémentaires, voilà, ils ont chacun leur délire, ils ont chacun 25 000 mixtapes à leur actif, des compilations. Où ils se réunissent tous, forcément ils sont tous en featuring sur les projets des uns des autres. C'est un peu compliqué de s'y retrouver, mais ouais, si on devait.
Et peut-être, voilà, rapidement, peut-être pour les gens qui connaissent pas, enfin, tu l'as bien présenté, mais pour les gens qui connaissent pas le label finalement, par quel disque il faudrait commencer ?
Bah, les 4 albums solo principaux de Jestaline, donc le premier en 2006, On Behalf of the Streets, Gas Nation en 2008. Ça, c'est vraiment les deux albums qui ont lancé le label. Prenuptial Agreement en 2010, qui est le plus connu, qui est un peu.
C'est le seul que j'avais écouté avant de préparer pour l'émission.
C'est un peu l'album de la maturité artistique de Jestaline. Tu sens qu'il arrive à un bon équilibre et après, il y a une forme de descente, de pente post-Prenuptial Agreement.
Par contre, il y a moins un point pour l'expression l'album de la maturité. Je suis désolé.
Là, ouais, ça passe pas. C'était limite.
C'est un peu dur. C'est un peu dur.
Ça passe.
Dire une chronique de Jay-Z par les Aero Keep Team.
Mais moi, si je peux donner mon humble avis.
Mais à coup pas.
Genre, moi, quand on me demande, ouais, j'ai envie de découvrir Livewire, quel disque tu me fais, tu me conseilles.
Le premier
que je. Chez D-Night, ouais, je pensais bien vite. Mais disons, pour rentrer avec Jestaline, tu vois, le troisième Real World.
En fait,
j'allais venir. En fait, pas, les 4 solos de Justin, c'est les 3 que j'ai cités, plus Memoirs of a Cup Server en 2012. Et il y a effectivement la série des 3 The Real World, 2006, 2009 et 2010.
Je pense que c'est les meilleurs. Enfin,
c'est produit par DJ Fresh.
C'est très accessible. Donc, c'est produit. C'est 50% DJ Fresh, 50% Mike Rimzo. Ouais. Ou Rizmo, je sais
ouais,
plus.
Rizmo, ouais.
Rizmo, je crois. Donc un mec du Wall Shabang. Et ouais, c'est que des samples funk 80s, comme je disais tout à l'heure. Ouais. C'est très smooth. T'as quelques refrains un peu autotunés, etc. Mais ça passe nickel.
Ça colle hyper bien avec son style, Jay Stalin, quand voilà. Il creuse vraiment là-dedans.
Ça résume bien un peu.
Il y a ces albums-là. Il y a pour les solos, Fissy Rich, Funk or Die, 2009. C'est vraiment son meilleur. Chez Dinette, t'as pas cité le titre, mais je pense qu'on parlait du même Gasman Unleashed, son premier.
Moi c'est Based on True Story.
Ouais, moi aussi, le deuxième. Ouais. Le deuxième.
Okay, okay.
Le deux. True Story, le 2. En fait, quand t'achètes le disque, t'as les deux dedans.
Ouais.
Deux dedans.
Ouais.
Ah, parce que la réédition du premier, effectivement.
Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Et ça, c'est vraiment bien. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre, ça.
Moi, je suis d'accord.
Il y a 80s Baby.
Ça colle hyper bien avec DJ Fresh, en fait.
C'est ça, ouais, là, c'est encore du DJ Fresh qui produit tout. Et en plus, DJ Fresh. Il a un peu un côté souvent de faire un peu les mêmes prods, tu vois. Ouais. Genre, c'est un peu facilité, il a un sample facile. Et là, c'est un peu expérimental sur le deuxième chez D-Night.
C'est un peu différent et tout. Au niveau sonorité, ça change. Ouais, moi, c'est ça qui me dérange chez DJ Fresh, c'est qu'il y a un délire un peu roue libre et tout. Ouais. D'ailleurs, le double album, là, le dernier de Jay Stalin, moi, il m'a fait chier. Parce que j'ai l'impression que j'entends 15 fois le même morceau. Ouais. Et il n'y a pas comme dans Real World 3 ou dans Based on True Story, le 2 ou le 1. Des morceaux qui ressortent un peu du lot, puis tu te dis ah ok, ça il l'a plus bossé comme un single et tout. J'ai l'impression que c'est roue libre les deux, tu vois.
Genre, DJ Fresh c'est un peu le Jay-Z de la mob musique de la BRA.
C'est un peu le Harry Fraud de la baie, quoi.
Ouais.
Non, mais en ce sens où il se repose peut-être un peu aujourd'hui sur ses acquis. Ouais. Et effectivement, comparativement, l'album Live on the Wire de Stevie Joe, qui donc est sorti le 16 juillet dernier comme le double de Jay Stalin, Miracle and Nightmare on 10th Street. Il est moins fatigué.
Les mécaniques
sont moins fatiguées, ouais. sont plus en forme que DJ Fresh.
En fait, ça tourne moins en rond, en fait, je trouve. Au niveau musical et tout, ils arrivent plus à se renouveler, alors que DJ Fresh, ça, au bout d'un moment, ça devient un peu fatigant. Ouais. Mais c'est parce qu'il fait trop de choses aussi, tu vois.
Trop de choses, et puis surtout, je pense qu'il met pas autant de cœur sur tout ce qu'il fait, tu vois.
Ouais,
alors, quand c'est un semi-rappeur de Livewire, c'est moins bien que quand c'est un tel ou un tel, tu vois.
Et déjà, en plus, il y a quand même un côté un peu nébuleux. Des fois, c'est pas lui qui produit, en fait. Son équipe de potes, on sait pas trop qui c'est qui fait quoi.
En fait, c'est nébuleux. Il y a un côté un peu. Je suis quand même un peu réglo parce que c'est toujours crédité.
Ouais.
Sur le truc de DJ Fresh.
Ouais.
Et je crois que les prods qui commencent sans le DJ Fresh,
ouais,
machin, c'est pas lui, tu vois.
Ouais.
Et t'en as une sur deux, c'est pas lui, c'est sûr.
Ouais.
C'est sûr.
Moi, encore, la fois où je l'avais capté Fresh, c'était dans son studio au fin fond d'Auckland, une zone industrielle un peu bizarre. Il était avec Jamon Drew, qui est donc un de ses petits du Wall Shabang. Ouais, non, c'était sympa. Bah, il bossait à l'époque, comme quoi l'enregistrement de l'album date pas d'hier, sur Fit Match the Paint, l'album qu'il a sorti avec Mitch Slick il y a pas longtemps.
3 ans plus tard.
Exactement. juste pour finir de citer, parce qu'après je mettrai la liste sur le site, ou alors je ferai au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore fait, mais tant qu'à faire, ça me motivera. Un petit recap, une petite présentation un peu plus en détail sur 187prod.com et on mettra le lien pour rediriger. Mais il y a donc le 80s Baby, forcément, de Stevie Joe, avec sa cover qui est assez mortelle. Il pose avec un gamin.
Qui, quand même, a une cuisse assez exceptionnelle. Je pense que c'est un bébé de plus de 4 ans.
C'est vrai, et puis donc il y a les compiles Pay Yourself or Spray Yourself qui est la première, il y a The Empire en 2009 et puis il y a les 3 volumes de Livewire Radio. Donc voilà, si vous commencez par écouter tout ça, vous aurez un aperçu assez exhaustif du délire Livewire Records. Et puis j'ai pas précisé que Jay Stalin il a débuté au début des années 2000, il a été découvert par Richie Rich. Enfin, il n'a pas été découvert par Richie Rich, il a été découvert par DJ Daryl, qui était donc le DJ producteur de 415, le premier groupe de Richie Rich à la fin des années 80, qui lui a présenté Richie Rich. Richie Rich l'a fait poser sur son album de 2002, c'était, je sais plus c'est quoi le titre, c'est Nixon Prior Round 3, voilà. Il l'a fait poser après sur une compile 2 ans plus tard, Grabs, Snatches and Texts. Et déjà à l'époque, il y avait toute la quintessence de Jay Stalin, tout le délire de la voyeur, il était déjà présent, parce que les 3 morceaux sur la compile en question, les titres, c'est D-Boy, Player Lady et Pop My Collar. Donc le côté chronique de rue, le côté rap pour meuf et le côté ego trip. Voilà.
Pas total.
Et dans la foulée, il s'est affranchi du patronage de Rich Rich, qui, selon Jay Staline, ne s'occupait pas assez de lui. Et il a fondé la Voyeur Records avec Shady Nate et Jay Jonah, qui sont originaires de quartiers voisins de sa cité, qui à la base étaient des potes de son grand frère, en fait. Son grand frère est parti en prison. C'est comme ça qu'ils se sont réunis. Ils ont fondé le label et ils ont assemblé les pièces du puzzle courant 2006, 2007, 2008. Genre, Jay Staline, il a rencontré Fitzrich par intermédiaire de Kick the Sneak pendant une tournée. Fitzrich lui a présenté Stevie Joe et ainsi de suite. Et donc, bon, on a cité les albums phares de leur discographie. On a fait à peu près le tour.
Je pense qu'on a fait le tour.
Ah, et puis je vois que leur tourne en plus.
Leur tourne, on a un peu dépassé ce qu'on s'était dit initialement.
Ah, c'est la première, on se rôde.
Les formats sont aussi faits pour être explosés. Peut-être mettre un peu de son maintenant.
C'est carrément. Écoute,
assurément. Alors là, je vais choisir un autre adverbe. Assurément. quel morceau,
si ça ne tenait qu'à moi, bien sûr, on partira en marathon La Voyeur jusqu'à demain matin, mais c'est pas le propos. Donc autant privilégier les trois sorties de mi-juillet, parce qu'on a cité donc l'album double de Jay Staline, on a cité le Live on the Wire de Stevie Joe, mais il y a aussi une compilation avec un peu tout le monde, et y compris des featuring extérieurs au label, qui s'intitule Down to the Wire, qui est pas mal d'ailleurs.
Ouais, elle est cool.
Mais bon, moi, voilà, Stevie Joe, vous l'avez compris, c'est vraiment mon dude, donc ça me fait plaisir de jouer un extrait de son album qui, objectivement, est le meilleur des trois projets.
En tant que chauffeur.
Merde, ça va me rester ça. Si tu savais le nombre de kilomètres que j'ai bouffé là-bas, parce que c'est les distances. Hein,
tant que c'est des kilomètres, ça va.
Non, ça, alors ça, tu vas couper au montage direct. C'est mort. Bref, il y a le morceau Stevie Joe qui est très très bon, mais autant prendre Look Into My Eyes parce qu'il y a Shady Nate et Jay Staline en featuring dessus. Prod des Mechanics, qui d'ailleurs ont composé tout l'album. Et assez emblématique, voilà, de ce que je disais tout à l'heure, des grosses basses, un son un peu froid, etc. Et puis donc les selon moi les trois rappeurs les plus intéressants du label sur ce morceau. Donc voilà, Look Into My Eyes. On peut dire au revoir dès maintenant parce qu'on reprendra pas la parole après le morceau.
Non.
Adios.
Au revoir.
Ouais, voilà. Super Van Rap.
À dans X temps.
La première. Bah, a priori à dans un mois. On va essayer de partir.
A priori à dans un mois.
Sur un rythme mensuel, on verra si on le tient. En fonction de nos emplois du temps respectifs, mais ça devrait le faire.
Mais on va le tenir.
Ouais. On est tous chômeurs de toute façon.
Et puis
chômeurs dans nos cœurs.
Et puis deepervenrap.fr pour les infos et puis voilà les compléments, que ça soit des clips ou autres, par rapport à Kanye West, Jay-Z et La Voyeur Records. Vous pouvez consulter tout ça dessus.
Merci.
À bientôt.
Ciao.
Windows of the soul, real niggas never been a foe. Oh, I'm so cold, these little niggas can't catch me. Sliding on ice, bitches call me Shea Gretzky. Guns stay dirty, but my lady stay sexy. Anywhere you know where it's white, that's where you can catch me. Man, I be whipping Nessie, fresh up out the blender. Catch me when you need me, you won't see me till November. Stop selling cream, but the fiends still remember. We growing like Christmas trees, bitch, timber. So you know I keep a Ruger right next to the money and digital ruler. For the right price, baby, gas gon' last. Fill them hot ones when they all up in your motherfucking ass. But stash, my little niggas go smash, go bag. Give you hot gas over this cold cash. The element of surprise, and this is what he did right before the nigga died.
Look into my eyes,
tell me what you see. Nothing but a motherfucking G.
Take a look into my eyes,
the windows of the soul, and tell you why a nigga so cold.
Take a look into my eyes
and tell me what you see. Nothing but a motherfucking G.
Nigga, look into my eyes,
the windows of the soul. Real niggas never been a foe.
Take a look in my eyes, I'm serious about these prices. Remember we had them sips in that drop top Chrysler. While you was in a cypher, I was up in Cyprus. Whooping niggas ass like Rowdy Roddy Piper. Dope fiends buying dope, they can't even buy diapers. I be on a 10 where all you need is your lighter. Bounce out, wet him up, I'm a firefighter. See me in a Challenger looking like Knight Rider. Dirtier than Lil Roscoe. Was a snotty, no dope fiends at my front door. Run off these last kicks, I ain't selling dope no more. Lately I've been running the money back like Jojo. Get it how I live, give a fuck about no bobo. Told that bitch I like her, but the pussy kinda so-so. Get it how I live, give a fuck about no popo. Told that bitch I like her, but the pussy kinda
look into my eyes. Tell me what you see. Nothing but a motherfucking G.
Take a look into my eye,
the windows of the soul, and tell you why a nigga so cold.
Take a look into my eye
and tell me what you see. Nothing but a motherfucking G.
Nigga, look into my eye,
the windows of the soul. Real niggas never been a foe.